Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Donc, nous continuons l'examen des notions de culture générale que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse il y a quelques années et toujours disponible en librairie. Alors, nous en sommes au chapitre 6 de cet ouvrage qui s'appelle « Psychomachie ou le combat de l'âme ». Et lors de la dernière émission, nous avions analysé déjà la notion de rêve. Dans le rêve, qui est l'envers de la persona ou du masque social, on va détecter ce que Jung appelle notre ombre. Et alors, ce qui est intéressant dans la logique du rêve, c'est les rêves de transformation. Par exemple, des notions que nous opposons le jour apparaissent la nuit comme complémentaires. Et une conscience morale trop rigide ou un moi social trop développé, une persona trop forte, campée sur ses certitudes, ou bien une idéologie trop stricte, eh bien, peut faire des rêves de transformation et d'indécision. Le blanc va se changer en noir et le noir va se changer en blanc. Un personnage se change en son contraire, son vêtement se métamorphose, il passe de la sphère lumineuse à la sphère obscure, etc. Par exemple, un personnage que nous méprisons dans notre conscient va devenir grandi dans notre rêve. Et à l'inverse, un personnage que nous valorisons dans notre conscient va être diminué dans le rêve. Donc le rêve ouvre sur d'autres scénarios que ceux du moi conscient. La personnalité sociale, ordinairement, est inscrite, je dirais, en ROM, comme on dit en informatique, Read Only Memory. Et le rêve, c'est de la RAM, Random Access Memory, qui est toujours volatile, mais toujours nouvelle. Donc le rêve brouille nos certitudes intellectuelles et morales, et il empêche la psychorigidité. S'agissant du bien et du mal, le manichéisme nous guette toujours. Nous opposons dans la vie éveillée le bien et le mal. Eh bien, certains rêves nous montrent qu'il faut les unir. Il faut mettre « et » là où nous mettons « ou ». La vie est comme un échiquier. Nous passons de case en case, de case blanche en case noire, et inversement. Et l'alternance universelle des choses, le mélange des opposés que l'on voit en rêve, peuvent donc éviter la stase, la stagnation, l'arrêt sur place, dans une névrose obsessionnelle, par exemple, de perfection, et dans une survalorisation de la morale. Donc le rêve peut guérir une personnalité en la complétant. Alors, le fond de la vie, c'est sûrement ce que l'on appelle, en termes savants, une ambiguïté axiologique, c'est-à-dire un partage des valeurs. Et il est humain, bien sûr, de séparer les bons et les méchants. Le jeune enfant aime qu'on lui simplifie ainsi les jugements et les contes qu'aime cet enfant se conforment à ce modèle. Ces contes sont d'habitude manichéens. Cependant, le manichéisme est une position très artificielle. Prenez par exemple le personnage de Saint Paul. Avant qu'il ne devînt ce personnage Paul et apôtre converti, il persécutait les chrétiens. Et puis, après la scène fameuse du chemin de Damas, il s'est mis à défendre les chrétiens avec autant de zèle qu'il en avait auparavant mis à les attaquer. Alors, dans quelle catégorie va-t-on ranger Saint Paul ? Parmi les méchants ou parmi les bons, vous voyez ? Donc, les rêves de transformation ou d'ambiguïté, qui sont très fréquents, montrent l'insuffisance des schémas sommaires et simplificateurs. Dans le film de Henri-Georges Clouzot qui s'appelle « Le Corbeau », eh bien, le docteur Vorzé, interprété par Pierre Larquet, montre au docteur Germain, interprété par Pierre Fresnay, que le bien et le mal s'interpénètrent en agitant précisément la lampe qui éclaire la pièce où ils se trouvent. Alors aussitôt que l'on agite la lampe, les zones d'ombre et les zones de lumière se mettent à danser sur le sol, se mêlent et se confondent. Et cette scène est hautement symbolique et profonde. Il s'agit de déstabiliser l'esprit, souvent simplificateur, de chacun de nous. À l'aurore de notre culture et de la leur, mais aussi de la nôtre, les Grecs ont eu cette intuition profonde d'un partage absolu des valeurs. L'Iliade, par exemple, nous montre un partage égal des dieux en deux camps. Les uns soutiennent les Grecs et les autres supportent, comme on dit aujourd'hui en sport, les Troyens, vous voyez. Alors on voit le sens de ce symbole. Le monde est mêlé, rien n'est absolument bon ou mauvais. Et à partir de là seulement, on pourra comprendre ensuite que ceux qui s'opposent coopèrent, comme le disait Héraclite, et que de la lutte des contraires naît l'harmonie. Mais évidemment, il ne faut pas poser l'harmonie au départ. Donc apparaît la notion, comme on dit en latin, de coincidentia oppositorum, c'est-à-dire de coïncidence des opposés, et aussi la notion de concordia discors, c'est-à-dire la concorde dissonante ou discordante en quelque sorte. Donc vous voyez, il y a une erreur que fait la modernité, qui est, que j'appellerais l'irénisme. On pose d'emblée la concorde, et alors on va dire que la vie est un long fleuve tranquille, etc. Mais l'harmonie n'est jamais préétablie. Alors pour reprendre l'exemple des Grecs et de l'Iliade, je dirais qu'il y a un génie du polythéisme, puisque la totalité axiologique est partagée, séparée en différents camps, en quelque sorte. Le polythéisme atomise et divise les valeurs. Au contraire, le monothéisme peut mener, alors là je suis très prudent dans ma formulation, peut mener quand il est mal géré au manichéisme et donc au fanatisme. Notez que c'est la vision du mélodrame qui simplifie, qui partage les hommes en bons et méchants. Ce n'est pas la vision de la tragédie. Et je parle ici en tant que littéraire, ancien professeur de littérature, vous voyez. Dans Les Misérables, qui est un mélodrame, le roman de Victor Hugo, Cosette a raison, manifestement, et les Thénardier ont tort. Mais dans Antigone, Antigone de Sophocle, par exemple, Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. Et la vie ressemble plus au monde d'Antigone qu'au monde des Misérables. Le monde de la tragédie est le monde d'une vraie culture. Et le monde du mélodrame, c'est plutôt le monde d'une culture simplifiée, pour ne pas dire une sous-culture. Donc il faut toujours, dans la vie, élargir le regard, essayer d'acquérir une vision d'ensemble, une vision synoptique, synoptikos en grec, qui voit la totalité. Il y a une phrase de Hegel que j'aime beaucoup, qui est « le vrai, c'est le tout ». Cette phrase pourrait très bien s'appliquer à l'univers des rêves, puisque le rêve nous montre, en complétant justement ce que notre vision consciente est, a de trop limité, nous montre l'éventail des possibles dans la vie. Cet éventail est quasi infini. Kafka disait de même, dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde, c'est-à-dire essaie d'entrer dans la vision des autres. Donc, le dialecticien, d'après Platon par exemple, il est celui qui a la vision de la totalité, synoptikos ho dialektikos, vous voyez. Et donc, il y a une centralité naturelle de l'être qui est égocentrique. Eh bien, il faut la combattre comment? Par exemple, par l'objectivation. Par exemple, si je désire un objet avec voracité que je vois dans une vitrine, dans un magasin, il peut arriver que je me vois moi-même en reflet dans la vitrine, désirant ce qui est à l'intérieur de la victime. Alors on va passer du « je » au « il ». Et ça, c'est ce que l'on appelle l'objectivation dans toutes les traditions spirituelles du monde. Donc il y a un changement de perspective, je pourrais appeler ça une énallage. C'est une figure de style qui consiste à changer la perspective dans l'énonciation, et cela peut nous sauver. On passe de la paranoïa égocentrée à la métanoïa, c'est-à-dire à une espèce de conversion version du regard. Et ainsi, nous définalisons la vie. Hein. Et cette définalisation est nécessaire pour mieux vivre la vie. On n'est plus, comme le dirait Schopenhauer, dans la volonté, le vouloir vivre, c'est-à-dire dans la pulsion immédiate, la frénésie pulsionnelle, mais on est dans ce que Schopenhauer appelle la représentation. Hein. Et cette lucidité, c'est le fond des sagesses de l'Orient, par exemple. Voyez certaines techniques du yoga ou bien les pratiques dites méditation de pleine conscience, mindfulness. Hein. Donc, on arrive justement à relativiser sa position locale, limitée, hein, pour essayer de voir justement l'ensemble des choses. Et le rêve peut servir à cela. Et aussi la prise de conscience distanciée de soi-même. Donc, l'immersion dans ce que Nerval appelle dans Aurélia la seconde vie du rêve complète et compense la partialité de notre regard. Partiel et partial à la fois, vous voyez. Hein. Le début d'Aurélia de Nerval que je viens de citer, c'est « Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire et de cornes qui nous séparent du monde invisible. » Et Nerval ajoute que le rêve est la compensation de nos peines et la peine de nos joies. Vous voyez, hein. Donc la logique du rêve, au fond, c'est la totalisation. Hein. Il faut rassembler des éléments que le regard conscient oppose et sépare. Un proverbe grec nous dit « la main lave la main », c'est-à-dire que là où est le mal, là aussi se trouve le remède. Et notez d'ailleurs que le mot grec « pharmakos » signifie à la fois « poison » et « remède ». Par exemple, en grec, on dit « par le même mot « kin d'une hein », le risque et la chance, vous voyez. Et en latin, le mot « periculum » renvoie justement à deux notions, « péril » et « expérience hein ». C'est la même racine. « Periculum » vient de « experiri », faire l'expérimentation, l'expérience de quelque chose. Mais c'est aussi courir un danger, courir un péril. Donc je dirais que le rêve relativise ce que les Allemands appellent la Weltanschauung, c'est-à-dire la vision du monde, la Weltanschauung du rêveur. Si cette Weltanschauung est dramatisée, hein, le rêve va donner des images globales qui seront plus d'apaisement. Hein. Et par là, le rêve rencontre les plus profondes intuitions spirituelles. Par exemple, Paul nous dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé, vous voyez. Hein. Donc, on comprend aussi ce que les théologiens appellent l'etiam peccata, même le péché, le péché aussi sert, vous voyez, hein, ou bien ce que Hegel appelle la positivité de la négativité, ou bien encore, toujours pour reprendre une notion théologique, la felix culpa des théologiens chrétiens, hein, la chose est la même d'ailleurs, hein, felix culpa, quoa et alem et meruit, et tantum meruit abere redemptorem, bienheureuse faute qui nous a valu un si grand et un si beau rédempteur. Ainsi, vous voyez que les contraires sont unis, hein, comme on voit dans l'idéogramme du Tao, où le blanc et le noir alternent comme les rythmes du monde. Il s'agit d'un cercle avec une moitié blanche et une moitié noire, et dans la partie blanche se trouve un tout petit cercle noir. Même chose, dans la partie noire se trouve un tout petit cercle blanc, vous voyez. Hein. On voit bien cette totalisation aussi dans les mandalas tibétains, par exemple, sur lesquels Jung a beaucoup réfléchi, où le cercle et le carré, le ciel et la terre, en réalisant ce que l'on appelle la quadrature du cercle. L'union des opposés va succéder maintenant au labyrinthe ou au dédale de l'âme. Je vous renvoie au livre de Jung qui s'appelle « Psychologie et orientalisme » paru chez Buchet-Chastel. Thank you. Voilà, André Breton disait que dans la poésie, les contraires cessaient d'être perçus contradictoirement. Et là, je pense au tableau de Magritte, l'Empire des Lumières, que j'ai vu au musée de Bruxelles. Et ce tableau nous montre une impossible rencontre d'une scène nocturne en bas et d'un ciel de plein jour, d'un ciel diurne en haut du tableau, vous voyez. Et c'est, à mon avis, ce à quoi nous invite la logique du rêve, qui est une raison bien plus large que l'autre, à laquelle le rêve nous donne accès. Comprendre les rêves, c'est donc élargir sa pensée. Voici ce que Jean Giraudoux dit dans le Lamento du jardinier, si vous voulez, hein, au milieu de sa pièce qui s'appelle Électre. Alors, c'est l'équivalent de la parabase dans la tragédie antique, hein, où le cœur commente l'action. Alors, je cite, « Évidemment, la vie est ratée, mais c'est très très bien la vie. Évidemment, rien ne va jamais, rien ne s'arrange jamais, mais parfois avouez que cela va admirablement, que cela s'arrange admirablement. Vous auriez compris ce que j'ai compris, à savoir la vérité. Vous auriez compris que le jour où vos parents mouraient, que vos parents naissaient. Le jour où vous étiez ruinés, que vous étiez riches. Où votre enfant était ingrat, qu'il était la reconnaissance même. Où vous étiez abandonné, que le monde entier se précipitait sur vous, dans l'élan et la tendresse. » Alors on peut dire effectivement que quand nos parents meurent, ils naissent. Comment naissent-ils? Eh bien, ils naissent en nous-mêmes, au fond de nous-mêmes. Nous nous souvenons d'eux, ils vivent en nous. Vous voyez, hein, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, disait Victor Hugo, vous voyez. Alors, quand notre enfant est ingrat, nous devons le remercier, par exemple, de nous permettre de nous interroger sur nous-mêmes. Est-ce que nous ne sommes pas trop possessifs, etc. Vous voyez, notre regard lucide et logique est partial et partiel, comme je l'ai dit. Il faudrait comprendre ici que les contraires non seulement alternent, mais s'appellent ou se tiennent la main. « Vos enfants ne sont pas vos enfants », disait Gibran dans Le Prophète. Hein. Donc c'est une antanaclase, c'est-à-dire un jeu sur le mot, sur les mots eux-mêmes. « Vos enfants, les enfants ne sont pas vos enfants, ils ne vous appartiennent pas. Hein. » Donc il y a une erreur, bien sûr, comme je l'ai signalé, du manichéisme. Eh bien, la vérité, c'est celle d'une ambiguïté intérieure. Par exemple, dans « Brasil » de Terry Gilliam, un très beau film, hein, le héros lutte contre un monstre qui est en réalité lui-même, vous voyez. Et puis, prenez aussi le blockbuster La guerre des étoiles de George Lucas, hein. Le méchant Dark Vador est en réalité le propre père du héros, vous voyez. Hein. Donc, on ne sait jamais justement à quoi s'en tenir relativement à nos appréciations conscientes. Il faut écouter le rêve pour les compléter ou compenser, vous voyez. Alors, les rêves, me semble-t-il, ont une fonction prémonitoire. Il y a une sorte de préscience des rêves. Alors vous allez me dire comment, hein, comment sont-ils ainsi tournés vers l'avenir? Et c'est vrai, on rit aujourd'hui de cette idée des rêves prémonitoires. Et pourtant, dans les sociétés traditionnelles, on nous dit bien qu'il y a des rêves prémonitoires qui nous éclairent sur l'avenir. Pourquoi cette idée serait-elle absurde, hein? Le rêve peut prédire ce qui arrivera ou ce qui risque d'arriver si on ne tient pas compte de lui, de ce qu'il veut nous dire, des avertissements qu'il nous donne. Je vais prendre un exemple. Si un homme fait un rêve récurrent d'une femme très belle qu'il appelle comme une sirène dans les bras de laquelle il court se noyer, et si, aussitôt qu'il est éveillé, il hausse les épaules et n'y pense plus le jour durant, qu'est-ce qui risque d'arriver? Eh bien, il risque d'arriver qu'à la mi-vie, il abandonnera famille et foyer pour suivre effectivement son démon de midi, sa sirène qui se moquera de lui et le transformera en pantin. C'est ce qu'on voit dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost, dans Carmen de Prosper Mérimée et dans l'opéra de Bizet qui en a été tiré, dans aussi le roman de Pierre Louis, La femme et le pantin. Hein. Buñuel s'en est servi pour faire son film cet obscur objet du désir, vous voyez, La femme et le pantin de Pierre Louis. Je pense aussi au film de Sternberg qui s'appelle L'ange bleu. Hein. Alors la figure de la femme idéale ou de l'anima, hein, pour reprendre le terme jungien, qui est un archétype de l'inconscient masculin, va être alors projetée sur un être réel, faute d'avoir été préalablement reconnu et mentalement fréquenté. Et la projection est toujours catastrophique. Il faut dialoguer avec les archétypes que l'on reconnaît en soi, et non pas les projeter sur les êtres. Alors, petite parenthèse, ce qu'on appelle le démon de midi, en réalité, pour l'opinion courante, hein, c'est un contresens sur le psaume 90 qui concerne l'acédie, c'est-à-dire akédéia, hein, l'absence de goût, d'envie pour les choses, hein, le taedium vitae, comme on dit en latin, le dégoût de la vie, comme il se voit dans le psaume 118 par exemple, hein. De chagrin mon âme ne dort plus, mon âme est collée à la poussière. Pour chagrin, c'est dans la Septante, c'est-à-dire dans la traduction de la Bible juive par les rabbins d'Alexandrie, vous avez le mot akédéia, hein, akédéia, l'acédie. Mais notez qu'il y a toujours une différence essentielle entre la symbolisation d'un archétype qui est manifesté dans l'art et qui sert d'exorcisme ou de catharsis, si vous voulez, et sa projection dans la vie sur un être réel. L'archétype, il faut le reconnaître en scrutant ses rêves, il faut négocier avec lui, il faut le gérer, hein, mais non pas le projeter sur les rencontres que nous faisons dans la vie réelle. Second exemple, un individu bien inséré, un battant ou un gagneur social, s'il faisait des rêves de chute, que risquerait-il de lui arriver, hein, s'il n'écoutait pas ses rêves, s'il ne les écoutait pas? Eh bien, il peut lui arriver que le sel de la lutte, un jour, pour lui, perde son goût. Hein. Si le sel perd sa saveur, dit l'Évangile, comment le lui redonnera-t-on, hein? Et alors un beau matin, le gagneur se réveillera psychasthénique, faute d'avoir compris que l'on ne peut pas se battre tout le temps. Hein. Et ainsi surviennent les mélancolies, les dépressions ou les décompensations des gagneurs. Hein. Peut-être est-il utile de compenser une certaine faiblesse dans la lutte. Là, je pense à l'idéologie de Adler, le troisième, si vous voulez, psychanalyste de base, Freud, Jung et Adler. Hein. Bon, peut-être est-il possible de compenser une certaine faiblesse dans la lutte, mais non pas de la surcompenser, car si on surcompense, eh bien après on décompense, vous voyez, on décompense. Donc le gagnant, hein, le winner, va justement s'arrêter de se battre, vous voyez. Alors bien sûr, les rêves n'invitent évidemment pas à une transformation réelle et pourrait-on dire physique. Rêver par exemple d'un clochard vomissant dans le ruisseau ou bien d'une prostituée sollicitant les patients, les passants sur le trottoir, hein, n'invite pas à devenir soi-même clochard ou prostituée. Mais symboliquement, si, hein. On ne peut pas toujours se contrôler, on ne peut pas toujours être comme il faut, BCBG, bon chic, bon genre, etc. Il faut donc de temps en temps se laisser aller, jouer, perdre son temps, etc. Donc cessons d'avoir peur de l'ombre, cette ombre, notre ombre personnelle, hein, que le rêve nous montre et qui vient de notre inconscient, cessons d'en avoir peur. Il faut que nous l'incorporions symboliquement en nous-mêmes et alors elle cessera de nous tourmenter, vous voyez. Alors s'agissant des attitudes que je viens de signaler, la jeune femme comme il faut rêvant de la prostituée, hein, ou bien du clochard dans le ruisseau, eh bien je dirais que le rêve nous montre l'importance du lâcher-prise. Hein, du lâcher-prise, c'est la clé de tout d'ailleurs dans la vie, savoir lâcher-prise, hein, et c'est l'essentiel de l'attitude spirituelle. C'est le fiat, hein, que cela soit, que vous avez par exemple dans l'évangile de Luc, lorsque Marie répond à l'ange de l'Annonciation, qu'il soit fait selon ta volonté, que cela soit fait, se fasse, fiat. Hein. Les Beatles ont utilisé cette situation et cette notion dans leur fameuse chanson « T'assois », hein, et ils font référence au personnage de Marie, vous voyez. Hein. Et d'ailleurs, vous avez aussi un fiat dans la seconde demande, dans la deuxième deuxième demande du Notre Père, hein, que ta volonté soit faite, voyez. Donc savoir ouvrir les mains dans la dépossession de soi, s'abandonner, hein. Si vous faites de la voile, vous savez que lorsque un grand vent se lève, il ne faut pas se crisper sur les écoutes, sur les câbles, hein, parce qu'alors on va dessaler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout lâcher, hein. Par gros temps, il faut tout lâcher et le bateau va flotter comme un bouchon, hein, de haut en bas, et vous ne risquerez rien, vous voyez. Donc ça, c'est la clé de tout, hein, le lâcher prise. Eh bien, certains rêves qui nous montrent la vanité, justement, de nos attitudes interventionnistes, activistes, volontaristes, etc., nous montrent, en montrant le contraire de ce que nous croyons être dans notre conscient, la nécessité, justement, de lâcher du lest. Hein. D'ailleurs, en ballon, on le dit aussi, hein, on ne s'élève qu'en lâchant du lest. Hein. Donc, il faut quand même écouter ses rêves sous peine, justement, de succomber aux problèmes qui nous affectent. Alors, la littérature est pleine, justement, ou le cinéma, hein, d'exemples comme ça. Je pense à Archimède le Clochard, hein, c'est un film de Gilles Grangier avec Jean Gabin, ou bien Alexandre le Bienheureux, hein, film d'Yves Robert avec Philippe Noiret. Hein. Il y a aussi Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir, qui a été l'objet d'un remake, d'une réécriture par Gérard Jugnot. Hein. Eh bien, il y a même eu une version américaine qui s'appelait Le Clochard de Beverly Hills. Voilà, chers auditeurs, je vais vous laisser pour cette semaine en vous souhaitant de temps en temps de ne rien faire, de lâcher prise et de ne pas vous crisper sur une action, hein, justement, qui, quand elle est excessive, peut mener à des catastrophes. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.